France Inter. Amélie Perrier. Le 6-9.
Ils étaient plusieurs dizaines de milliers hier un peu partout en France pour dénoncer la dictature ou le pass sanitaire que certains rebaptisent le pass nazitaire. À Marseille, à Lille, Montpellier ou Paris, à l'appel de messages sur les réseaux sociaux repris par certains politiques comme Florian Philippot, l'ex numéro 2 du FN. Alors ce matin, on a eu envie de prendre un peu de recul, de penser cette nouvelle étape de la pandémie. Bonjour Cynthia Fleury.
Bonjour.
Philosophe et psychanalyste. La revendication de ces antipasses et antivax, c'est la liberté. Mais est-ce bien de liberté que l'on parle ici ?
Attendez.
Alors vous m'entendez ?
Parce que j'ai un petit souci.
Ah, on vous entend en écho. Donc vous êtes à distance, on va le dire, voilà.
Voilà.
Vous nous entendez bien ?
Moi, j'ai eu un souci de téléphone qui a sonné au même moment. Alors dites-moi.
Voilà, je vous parlais de ces antipasses, ces antivax, qui revendiquent la liberté. Est-ce que c'est bien de liberté ? Que l'on parle ici.
Alors c'est compliqué parce qu'il y a un petit peu il y a plusieurs choses. Il peut y avoir, si vous voulez, d'abord et ça c'est ce qui est le plus simple, tout ce qui concerne la désinformation délibérée avec ce qu'on peut connaître de thèses complotistes, etc. Donc il y a ce point-là aussi et d'instrumentalisation de la vérité. Après il y a d'autres phénomènes un petit peu plus compliqués qui utilisent c'est ce qu'on appelle vous savez, la thèse d'Oreskes, de Conway sur les marchands du doute. C'est-à-dire qu'on va utiliser la science pour déstabiliser la science. Utiliser la controverse pour déstabiliser encore une fois la science. Donc ça c'est le deuxième point. Puis une troisième point avec des instrumentalisations aussi plus ou moins de bonne foi de l'état de droit. Donc c'est la question effectivement de plaidoyer pour la liberté. Est-ce qu'on est dans du liberticide ou pas, etc. Donc vous voyez, il y a à la fois tout un univers de bonne foi et d'intérêt par rapport à qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment. Est-ce que nous sommes bien dans toujours l'état de droit, et pour ça il y a des outils pour vérifier. Et un des outils qui est non pas institutionnel mais qui a toujours été efficace, c'est la rue, c'est l'opinion publique, c'est le débat public, c'est les médias, etc. Et puis ça va jusqu'à quelque chose de beaucoup plus tendancieux, de beaucoup plus compliqué, et qui, pour le coup, n'a pas nécessairement à voir avec la lutte pour la défense des libertés individuelles.
Mais Cynthia Fleury, où doit se situer la liberté ? Est-ce qu'elle est du côté des anti-vaccins qui disent « moi, je veux avoir la liberté de ne pas me vacciner » ou est-ce que cette liberté, elle doit être du côté de ceux qui disent « moi, je me vaccine pour retrouver la liberté d'aller boire un café en terrasse ou d'aller au cinéma ?» Elle est où, la liberté, en fait ?
C'est une des questions les plus complexes. Alors, l'intérêt, malgré tout, dans une démocratie, c'est que cette discussion, nous pouvons l'avoir à plusieurs. Voilà, donc déjà...
Donc on n'est pas en dictature, comme certains disaient hier dans les cortèges.
Exactement, voilà. C'est qu'on peut avoir une querelle autour des conceptions de la liberté sans malgré tout mettre en danger nos vies, je parle, terminer en prison, etc., ou perdre la vie tout simplement. Donc ça, c'est un des points essentiels, cette querelle. Et cette querelle, elle est précieuse, hein. Il ne faut pas l'enlever, je veux dire par là, que c'est important parce que c'est jamais simple de savoir où est la liberté, et puis c'est jamais simple de savoir si nous sommes toujours dans un état de droit ou si nous flirtons trop avec des conceptions qui effectivement pourraient être liberticides. Donc malgré tout, la vigilance, on peut tout à fait la comprendre. Néanmoins, la liberté, elle est entre guillemets des deux côtés, tout dépend les conceptions qu'on peut mettre l'une face à face. Vous avez une liberté classique, moderne, qui est la liberté dite négative, la liberté dite libérale, c'est-à-dire essentiellement une liberté très individualiste, mais voilà, tant que je ne nuis pas à autrui, je fais ce que je veux, en gros. Et ça, c'est vrai que nos sociétés modernes ont des valeurs prioritairement libérales, très individualistes, et résultat, elles sont très très vite heurtées par un autre type de conception de liberté qui est jugée plus liberticide et qui pourrait être définie comme une liberté dite plus positive, plus républicaine, dans laquelle la question de la responsabilité collective compte, et surtout, si vous voulez, qui sont des libertés du quantitatif et pas simplement du singulier. C'est-à-dire qu'on va s'interroger sur le fait de préserver la liberté du plus grand nombre, et au nom de la préservation et des droits du plus grand nombre, on va éventuellement faire peser sur une partie ou éventuellement l'intégralité de la partie de la population telle ou telle contrainte. C'est-à-dire, mais la finalité, ce n'est pas de faire disparaître la liberté. C'est là où, si vous voulez, les deux conceptions défendent dans les deux cas une conception de la liberté. Mais d'un côté, vous avez une conception qui est très très portée par tout simplement les politiques de santé publique. Et c'est très compliqué dans aujourd'hui une démocratie moderne d'accueillir avec bienveillance les phénomènes de santé publique qui ont de toute façon, oui, des approches entre guillemets liberticides au sens de la liberté libérale moderne, parce que effectivement on peut aller jusqu'à une contrainte, une obligation vaccinale, etc. Mais dans les deux cas, si vous voulez, ce n'est pas pour empêcher la liberté. Dans les deux cas, c'est pour essayer de protéger la liberté, mais d'un côté, on va essayer de protéger la liberté en protégeant la liberté de chacun. Et de l'autre côté, on va protéger la liberté d'abord en protégeant la liberté dite du plus grand nombre, et donc on a des approches statistiques.
Peut-on parler de liberté, enfin, est-ce que l'on mélange aujourd'hui aussi la liberté et le confort? Parce que là, on parle quand même de la liberté d'aller boire un café en terrasse, ou de la liberté d'aller au cinéma, ou de prendre un train. Est-ce qu'on mélange pas les deux aussi, la liberté et le confort de nos sociétés modernes?
Alors, parfois oui, là pas nécessairement. Je veux dire par là que c'est aussi une des vérités de la vie, tout simplement. Et on a vu dans ce grand moment lié à la Covid qu'il y avait des approches problématiques de ce qu'on a appelé la biologisation de la vie. C'est-à-dire qu'en gros,
vous dites qu'on réduit l'humanité à son seul aspect biologique, et ça vous dérange ça aujourd'hui.
Voilà. Donc si vous voulez, ça c'est bien évidemment antinomique non seulement de la conception de la vie, c'est antinomique de la conception de la démocratie, et c'est même antinomique de la conception de la santé, puisque l'OMS est la première organisation effectivement à rappeler que la santé c'est une approche holistique, et que donc tout d'un coup s'interroger sur la question du bien-être social, de la vie spirituelle des uns et des autres, mais au sens de travailler avec de l'immatériel et pas simplement du matériel. Donc toutes ces questions-là, elles sont absolument déterminantes pour qu'un être humain soit psychiquement, socialement, physiquement en bonne santé. Donc la préservation de cette affectio societatis, si vous voulez, de cette vie sociale, la manière dont nous rencontrons les uns et les autres, d'abord nous formons en plus une communauté, c'est aussi comme ça que nous traversons les crises, c'est comme ça que nous créons de la résilience, donc tout ça c'est absolument clé. Donc bien sûr qu'il peut y avoir des questions de confort, je dis pas ça dans le sens où telle ou telle fête, etc. Mais le principe vital humaniste de la préservation de ces relations, encore une fois, dans l'état de droit, c'est absolument clé, et encore une fois, dans la question même de l'humanité. C'est ce qui fait que nous ne basculons pas soit dans de la barbarie délirante, soit dans de l'indifférenciation délirante, etc.
Cynthia Fleury, je voudrais poser cette question autant à la psychanalyste qu'à la philosophe que vous êtes. Pourquoi la vaccination, jusqu'à très récemment, ne nous posait pas vraiment de problème? On est tous vaccinés, on se vaccine contre la fièvre jaune ou la rage quand on part à l'étranger dans un pays lointain, mais ces vaccins-là, anti-Covid, ils inquiètent, ils sont diabolisés depuis le début.
Oui, ils sont diabolisés parce que il y a beaucoup de choses. Alors d'abord, de fait, les vaccins qui aujourd'hui, même si reconnaissons que le mouvement de la défiance entre guillemets vaccinale, ou parce que juste rappelons ceci, si vous voulez, le grand mouvement anti-vaccin, il est né avec Pasteur. Hein, donc si vous voulez, 1880, la Ligue universelle des anti-vaccinateurs, c'est parti en même temps et de manière vaillante. Et donc rien de nouveau malgré tout sous le soleil. En revanche, là où c'est plus compliqué, c'est que vous avez eu cette... Alors, c'est là où on peut considérer que c'est une instrumentalisation, c'est que de cette dynamique d'anti-vaccin, on est passé à quelque chose justement de plus libéral, puisque dans les années 50, la Ligue, elle est devenue la Ligue pour la liberté de vaccination. Vous voyez, donc c'est plus du tout la même chose, c'est-à-dire que c'est pas simplement l'anti-vaccination, c'est aussi la liberté vaccinale. Et ça malgré tout, ça renvoie à quelque chose que les sociétés modernes peuvent entendre. Donc il y a à la fois une défiance vaccinale, puis il y a aussi le fait de dire mais on peut sur certains points ne pas vouloir faire vacciner ses enfants, etc. Bon, donc ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que vous avez des vaccins qui sont entre guillemets stabilisés avec des grands retours sûrs, etc., et qui posent quasiment plus de problèmes. Et puis vous avez la science en marche qui utilise d'autres techniques où les retours, même si les essais cliniques sont probants, etc., ont moins de voilà, c'est l'histoire de la science qui est en train de se faire et des vaccins qui sont en train de se faire.
Il y a moins de recul, mais il y a quand même des millions de personnes qui se sont fait vacciner depuis 7-8 mois maintenant.
Exactement, des millions de personnes, mais avec un vaccin qui est, un virus qui est particulièrement retors, des formulations des uns et des autres qui manquent parfois de clarté, mais encore une fois, c'est pas un jugement, hein, c'est que y a énormément de mutants, et de mutations, entre guillemets, de ce virus, et avec une incertitude très très forte. Donc la gestion de l'incertitude aujourd'hui, elle est très compliquée. Puis vous rajoutez à ça la viralité algorithmique, entre guillemets. Deux points importants pour expliquer, c'est-à-dire qu'il y a deux menaces qui ont été identifiées de façon très très forte par l'OMS comme étant des menaces mondiales contre la santé. La première, c'est l'infodémie, c'est-à-dire en gros l'épidémie de fausses informations sur des points qui viennent créer un doute très compliqué à gérer pour justement préserver la santé. Et puis le deuxième, qui est assez proche d'ailleurs, c'est la défiance anti-vaccinale. C'est la défiance, vaccinale. Donc vous voyez, c'est deux grandes menaces. Et c'est vrai que la viralité aujourd'hui algorithmique, etc., fait que derrière la question des vaccins, il y a aussi toute la question du supposé lobby pharmaceutique, industrialo, etc. Et là, vous avez vraiment, une piste aux étoiles, si j'ose dire, pour les thèses complotistes, oui. Etc. Voilà. Donc, tout ça fait que, et puis pour toute construction fictive qui s'engouffre là. Donc, c'est pas simple de dire, tiens, qu'est-ce qui est vérité, qu'est-ce qui est, honnête, inquiétude sous forme honnête et qui est absolument nécessaire dans un état de droit. On manifeste sa vigilance, sa critique, on produit de la querelle sur les conceptions de liberté, etc. Et puis, dans un troisième temps, des choses qui sont en revanche beaucoup plus délétères, avec production délibérée de désinformation, production délibérée de thèses complotistes, etc.
Et, Cynthia Fleury, est-ce qu'il faut dissocier aujourd'hui l'obligation vaccinale et le pass sanitaire ? Je m'explique, la vaccination, c'est une solution sanitaire. Il y a des politiques qui se disent « moi je suis pour la vaccination », mais qui sont contre le pass sanitaire. Pour eux, c'est une solution répressive. Est-ce qu'il faut faire la différence entre les deux ?
En règle générale, il faut faire la différence et il faut aller toujours vers plus de complexité que l'inverse. Mais plus on va vers la complexité, plus la question de la clarification des messages, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, comment on comprend cela, est pas simple. Donc il y a jamais de bonne solution, si vous voulez. On est toujours dans des théories du moindre mal, où on essaye à la fois de préserver malgré tout l'assentiment, le consentement, parce que d'abord la question dans la santé du consentement est une question clé, hein. C'est une valeur et un principe intangible dans notre droit. Donc ça, c'est important. Après, il y a toutes les questions d'efficace, Est-ce que c'est plus efficace de défendre l'obligation vaccinale ou pas ? Il s'avère que non, c'est pas spécifiquement prouvé. Je prends un exemple, mais parce que les pays européens sont très différents, hein, là-dessus. Il n'y a pas d'obligation vaccinale partout. En Suède, je crois que c'est pas le cas, et vous avez 95% des Suédois qui sont vaccinés. Donc vous voyez, c'est pas... Ouais. Vous n'avez pas nécessairement... L'obligation vaccinale ne crée pas, au contraire, parfois ça crée un frein sur ces points-là. Et puis en plus, demain, le pass sanitaire, il va évoluer. C'est quelque chose qui va varier selon les nouvelles techniques, les nouveaux variants, etc. Donc c'est important de dissocier effectivement les moments.
Hier, dans les cortèges des anti-pass sanitaires et des anti-vax, on a vu des étoiles jaunes avec la mention pass sanitaire, on a vu des références au nazisme, au camp de concentration. Pourquoi une telle radicalité? Pourquoi une telle violence dans ce débat?
Ben c'est pour ça, c'est ce que je vous dis, c'est-à-dire qu'il faut, je pense, malgré tout, ne pas être dupe de ce qui se joue et de qui organise ce type de réaction, de débat. Et il faut pas être naïf, il y a une possible, et voire une réelle, instrumentalisation des principes de l'état de droit. C'est-à-dire qu'on va présenter comme un grand plaidoyer pour la liberté individuelle, etc., voire la science, comme je l'ai dit tout à l'heure, en amenant des controverses qui n'ont pas lieu d'être sur la question de la science. Ça existe. Et bien évidemment, les symptômes, il y a parfois des traces de cette mauvaise foi consciente ou inconsciente, ou de cette instrumentalisation, et tout d'un coup vous voyez des panneaux surgir délirants, et il y a eu ça dans les cortèges. Donc il faut pas, voilà, et c'est une on le voit d'ailleurs très très bien, hein. il y a une vraie, le profil n'est pas le même de ceux qui se définissent comme résistants et contre la vaccination, et puis ceux qui sont qui sont plus hésitants, qui n'avaient pas saisi l'enjeu, qui parfois, vous avez vu qu'on a eu un boom là de 900 000 personnes.
Alors justement, oui, c'est curieux quand même cette réaction, parce que là, on parle des antipasses, ils étaient 110 000 hier, il y a quand même eu des millions de Français qui, après l'allocution d'Emmanuel Macron, se sont précipités pour prendre rendez-vous et se faire vacciner. Quand il y a 110 000 manifestants, il y a 900 000 personnes dans la même journée qui se font vacciner. Comment vous expliquez cette réaction d'une majorité de Français qui sont rués comme ça vers les centres de vaccination? Fallait les menacer? Est-ce que c'est un peu puéril, immature comme réaction?
Alors, je ne sais pas, mais on peut au minimum dire que voilà, il y a des motivations composites. Je pense qu'il y avait beaucoup de pragmatisme pour beaucoup, hein, se disant bon, visiblement,
je pourrais pas aller travailler, je pourrais pas prendre de vacances.
Voilà, ça va être trop compliqué, donc voilà, donc. Quand il y a du pragmatisme, il y a un petit peu du principe de réalité, donc il y a un petit peu de renoncement, il y a un petit peu de capitulation. Enfin, voilà, c'est-à-dire que c'est compliqué d'aller sonder, si vous voulez, la couleur totale.
Mais quand même, on a l'impression qu'il faut menacer. Il faut menacer.
Oui, il faut menacer dans la mesure où, si vous voulez, c'est pas un geste neutre. Donc, on peut tout à fait comprendre que tout ce qui est ressenti comme invasif, venant toucher mon corps et l'intégrité de mon corps, bah, les uns et les autres soient d'abord dans un phénomène de comme ça, non pas forcément de résistance, mais au minimum de suspens. Donc ça, c'est assez normal. Maintenant, c'est pas nouveau, si vous voulez. Je veux dire par là que l'État a toujours eu un rapport au corps. Je dis pas que c'est qu'il faut pas veiller à ce que ce rapport au corps. Il faut d'ailleurs veiller à ce que ce rapport au corps ne soit pas outrancier. Mais c'est vrai que par le passé, on donnait sa vie au travers des guerres, au travers comment dire, le fait de s'engager dans l'armée de manière obligatoire, etc., etc., et que malgré tout, aujourd'hui, dans les rapports de santé publique, à un moment donné, la question du corps du peuple, elle est convoquée. C'est-à-dire que là, quand nous acceptons d'aller nous faire vacciner alors que nous n'en avons pas nécessairement besoin si nous sommes jeunes, moins jeunes, sans comorbidité, etc., malgré tout, notre corps devient le lieu, si vous voulez, d'une dynamique collective. Et ça, c'est encore très, très lointain pour les sociétés modernes que nous sommes.
Merci. Merci beaucoup, Cynthia Fleury, pour nous avoir permis de réfléchir, de penser un peu cette période si particulière. Je rappelle que vous êtes professeur titulaire de la chaire Humanité et Santé au CNAM. Et puis votre ouvrage également, Sigil la mer, guérir du ressentiment, sorti chez Gallimard l'an dernier. Merci à vous et bonne journée. France Inter.